18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On est le jeudi 2 mai et vous êtes dans Time Sport comme chaque jour de 18h à 19h. Vous êtes en transport ou en voiture ou à la maison. Vous restez avec nous pour une actualité toute chaude concernant la planète sport. Avec vous, chers auditrices, chers auditeurs de Beurre FM, ce soir on reste connectés tout au long de l'émission. Le standard au 01 53 48 3000 et le hashtag Time Sport sur la twittosphère. Beurre FM vous fait remporter de nombreux livres aux éditions Talon Sport et vos maillots de vos clubs préférés. Cette semaine, vous avez de la chance, c'est celui de Tottenham ou encore de l'Ajax. Au menu de cette émission, le Qatar qui commence à douter de son engagement du côté du Parc des Princes. L'info du jour, Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleuets, dévoile ce jeudi soir à la télévision française à 20h sur nos confrères de TF1 sa liste des 23 joueuses retenues pour la Coupe du Monde en France. On ira aussi du côté de la Principauté de Monaco avec Léo Jardim, l'entraîneur des Monégasques, mais aussi la page Champions League avec le grand Léo Messi, le FC Barcelone qui assomme Liverpool. Et on terminera enfin avec le dernier carré de la Ligue Europa de ses demi-finales. Allez, c'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir, pour m'accompagner durant une heure, on aura Guillaume Ascari. Eh oui, ça fait très longtemps qu'on l'a pas eu sur l'antenne de Time Sport, de Beurre FM aussi, sans oublier Mamadou Lamine Mané. Mais avec moi, il y aura Nassim Bourras, notre Bundesliga boy. Comment ça va?
Ça va, très chaud pour la soirée qui s'annonce. Double confrontation avec Francfort qui va jouer une place en finale de l'Europa League et l'équipe réserve du Bayern Munich qui joue un titre européen.
Comme ton t-shirt, hein, ils sont tout chauds dessus aussi. On aura le coach Tolé qui sera de la partie. Comment ça va?
Ça va, impeccable.
Ouais.
Bah ouais, écoute.
Ça te fait plaisir ce soir, la liste de ces 23 joueuses
pour
cette phase finale de la Coupe du Monde féminine en France.
Bien sûr, mais c'est une première. Et puis on espère surtout que ça va être une belle fête pour le football féminin.
Et en tout cas, lui, il est toujours adieu. C'est Nicolas Vidal qui nous rejoint, qui est avec nous ce soir, encore une fois, de Pouch Media. Comment ça va, Nico?
En pleine forme ce soir, avec plein de sujets qui me rendent un appétit vorace.
Eh bien, c'est parti, on y va. Tout d'abord, avec la première partie de cette émission.
Time Sport, le ras-le-bol.
Une info toute fraîche, moi, elle est tombée depuis hier, avant de parler du Paris Saint-Germain. C'est le monde du football au chevet d'Iker Casillas, un grand gardien, le gardien du FC Porto, hospitalisé après un infarctus, a tenu à rassurer tous ses fans. Nassim, on t'écoute, concernant cet immense gardien. Ouais, au palmarès, ça, c'est incroyable quand même, faut le dire.
Déjà oui, voilà, on a tous été choqués via cette annonce. Après, voilà, Dieu merci, et heureusement, il a l'air d'être en pleine forme.
Ouais.
On a eu, on va dire, plus de peur que de mal. Voilà, il est toujours parmi nous, en bonne santé. Bon, après, derrière, je pense pas qu'il devrait reprendre la compétition, même pas à long terme. Mais voilà, déjà, qu'il soit parmi nous, c'est déjà le plus important. Et on lui souhaite une bonne continuation pour lui, déjà.
Nicolas, un mot sur l'Espagnol.
Gardien, ouais. Qui continue à œuvrer dans les buts, donc voilà, on lui souhaite le prompt rétablissement nécessaire, et bon, pour le retour sur les terrains, on pense que ça va être compliqué quand même à son âge, et avec effectivement le gros incident cardiaque dont il a été victime, il serait quand même pas dingue de plus le voir sur les terrains, malheureusement, mais l'essentiel c'est que sa vie soit sauve à cette heure-ci.
Et c'est vrai, tu as bien raison de le dire. Coach, un mot sur Iker Casillas, avec toi.
Ouais, bah écoute, heureusement que ça s'est déroulé durant la séance d'entraînement. Après, ouais, Iker, il a 38 ans quand même. Donc voilà, alors les médecins affirment quand même que même pour un athlète de haut niveau, il pourrait reprendre sur la saison prochaine, mais ça reste voilà, faut contrôler tout ça.
Ouais, il faut qu'il se repose.
C'est hypothétique en fait.
Oui, mais c'est il y a des possibilités.
Il y a des
quand même.
Ouais, mais il faudra se reposer.
Mais il faudra quand même se reposer. Mais j'aurais quand même moi passé un coup de gueule aussi. C'est
alors
la santé, on l'oublie un peu trop vite. Et tu sais, pour être dans le football,
ouais, le coach,
football d'en bas. Alors maintenant, en fait, lorsque tu prends une licence, tu as la possibilité d'y aller, enfin d'aller une fois chez le médecin et de rester deux trois saisons,
ouais,
sans rien. Et ça c'est du grand n'importe quoi. Alors je sais pas qui a mis ça en place.
Un peu bâclé, quoi.
Mais on parle de santé, c'est extrêmement grave, surtout.
On reviendra sur un sujet qui.
On peut juste parler par exemple de la Ligue des Champions avec Tottenham, avec Vertonghen qui prend un énorme choc et qui re-rentre sur le terrain alors que. À quoi servent les médecins, ouais, déjà, ouais, sur les médecins du board du club, ouais. À quoi ils servent? Parce qu'ils voient bien que le défenseur n'arrive plus à jouer correctement, qui n'est même plus à 100% de ses moyens physiques et même mentaux. Et on le rebalance encore dans un match de très très haut niveau qui est un match de Ligue des Champions. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas des médecins qui n'appartiennent pas au club, des médecins...
Rapide, rapide, messieurs, on doit enchaîner sur le Paris Saint-Germain. On termine avec toi, Nicolas.
Le contraire du rugby, où tu as des tests, écoutez, de commotion cérébrale, qui te permettent de savoir...
Et ça va poser problème, en plus.
...à continuer une partie. Effectivement, c'est une question qu'il faudra se poser au foot, parce qu'il peut y avoir des chocs violents au foot aussi.
Et on reviendra, justement, sur la santé des sportifs. Conséquence directe de ces deux derniers mois qui virent au cauchemar pour le Qatar et qui commence tout de même à douter de son engagement du côté du Parc des Princes, propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011. On le rappelle, le Qatar se poserait des questions sur son avenir dans la capitale française, d'après nos confrères de chez Le Parisien. En effet, ces dernières semaines, les Qataris vivent de plus en plus mal les critiques autour du club francilien, mais aussi les échecs cuisants en Ligue des Champions et les moqueries. Des doutes qui pourraient avoir un impact, Nicolas, sur le projet, un désengagement, je cite, à moyen terme, ou une baisse sensible du financement du club n'est plus à exclure. Apprenant, le coach Tollet, n'est-il pas temps, en quelque sorte, d'entendre poindre, de déceler des signes, si je peux me permettre, d'agacement des propriétaires parisiens, tant le projet n'arrive pas à trouver de solides points d'ancrage. Alors, Nicolas.
Ben, moi, je l'ai déjà dit sur votre antenne. Effectivement, le Paris Saint-Germain, il serait temps que le Qatar QSI se rende compte que Paris Saint-Germain est un naufrage aussi bien sportif qu'économique. C'est quand même la cinquième saison qu'ils se font sortir, huitième finale et avant quart de finale, avec des investissements. On rappelle que cette année, il y avait quand même 500 millions d'euros sur la table de budget, avec des salaires mirobolants. On se rend compte que, et en plus, je me permets de dire, on nous a vendu, avec la complicité des instants du poulot sportif, que le Paris Saint-Germain gagnerait une Ligue des champions, et ça, on a sacrifié l'intérêt sportif de la Ligue 1 en nous disant, vous voyez, le PSG, c'est comme la politique, il y a une politique de ruissellement, et effectivement, là, le ruissellement dans le foot marche aussi bien qu'en politique, il n'y a pas de ruissellement, donc le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un naufrage absolu, et Paris est absolument tragique.
Ah, il n'est pas magique, malheureusement, Nassim. Magique, tragique, on ne sait plus où aller.
Moi, je pense déjà que le PSG devrait se poser la question de sa propre mode de gouvernance, déjà, son propre mode de gouvernance, sa façon de gérer le club. Ça fait maintenant presque 10 ans que les Qataris sont arrivés au club. Et je me rappelle qu'ils avaient, je crois, si je ne me trompe pas, ils avaient dit qu'ils voulaient gagner la Ligue des Champions en 5 ans.
Ouais.
En 5 ans.
Plus rapide que les Blues, voilà, à Chelsea.
Force est de constater qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la gestion, surtout que. Un des demi-finalistes de cette Ligue des Champions, c'est l'Ajax, avec un budget quasiment 10 fois inférieur.
Oui, on en parlait déjà cette semaine.
Voilà, on peut parler aussi de Thiago Motta aujourd'hui qui se pose des questions sur son poste.
Et petite brouille avec Henrique aussi, entre les deux hommes.
Notion de formation au Paris.
Ça n'a jamais existé.
Ce que le PSG devrait faire à partir de cet été, c'est une refonte complète du club, que ce soit aussi bien des joueurs de l'équipe A que. Du mode de gouvernance du centre de formation, mais aussi et surtout le changement de direction du club, parce que Nasser Al-Khelaifi est maintenant en poste depuis très, très longtemps et il n'y arrive pas. Il faut passer un cap avec un nouveau directeur.
Parmi les points noirs, justement, le coach de l'aventure parisienne, hors les nombreux échecs en Coupe d'Europe et cette réputation de perdant, le Qatar n'apprécie pas justement les nombreuses critiques faites au sein de l'Hexagone.
C'est que ça va au-delà du sportif.
D'une certaine manière,
le PSG a toujours eu cette image-là aussi. Hein. Bien avant l'arrivée des Qataris, on sait que Echter avait acheté aussi le Paris Saint-Germain dans les années 70, puis Canal+, et puis voilà, c'est le club de la capitale.
Les Qataris ont fait du bien aussi au Paris Saint-Germain, faut pas l'oublier.
Ils ont fait du bien, mais t'as toujours cette image aussi.
Alors, on va revenir, t'inquiète pas,
Cette image vis-à-vis de la France. Oui. T'as toujours cette... malheureusement, on est aussi jaloux en France. C'est vrai que là, t'arrives... les Qataris arrivent avec quand même des moyens...
Ils sont richissimes.
Et c'est vrai que ça dérange.
Moi, je ne dis pas que ça dérange, je dis que ça tue le foot de la Ligue 1, ça tue le foot français, parce que qu'on sait que le PSG va gagner.
La Ligue 1 est sous les feux de la rampe aujourd'hui. Ça n'a jamais été.
J'ai le sentiment qu'ils sont arrivés comme s'ils jouaient à Football Manager.
C'est-à-dire
qu'ils
arrivent. Pour toi.
C'est vraiment plus simple. C'est qu'ils arrivent avec des milliards. Non, mais attends, t'arrives, tu mets le milliard, tu dis en 5 ans.
Ah là là, on a énervé le coach là, ouais.
Ah oui,
pas faux. Nicolas, sur le Paris Saint-Germain version Qatari.
Ben oui, mais bon, je le redis, on a sacrifié les intérêts sportifs. sportive de la Ligue 1. Moi, je suis désolé, j'aime bien quand je regarde un match de foot, et je crois qu'on est tous autour de la table à le vouloir, quand on regarde un match de foot, de pas savoir forcément qui va gagner à la fin. Le Paris Saint-Germain, moi, personnellement, quand ils arrivent à 2-0, j'arrête. C'est bien, j'arrête moins depuis quelques temps, puisqu'ils perdent. Donc, je me régale, en fait. Mais au moins qu'on ait un peu d'intérêt sportif. Quand on voit le Paris-Montpellier, quand on voit Lille-Paris, ou qu'on voit Rennes-Paris, on se fait plaisir. Parce qu'il y a un véritable enjeu, parce qu'il y a du rebondissement, parce qu'il y a des buts, et parce que le match peut basculer d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, le PSG, bon, ben voilà.
Ça part dans tous les sens pour toi, en tout cas. Allons autour de la médaille pour Nicolas Vidal. En tout cas, des réactions avec le hashtag TimeSport sur la Twittosphère. Mais aussi, vous pouvez nous appeler 01 53 48 3000. Le petit clin d'œil, il est fait pour Ménil et aussi pour Hugo à la réalisation. Toujours là, toujours présent. Justement, on nous dit que le PSG se prend pour un club de NBA, à savoir. Toi qui es connaisseur de NBA, il n'y a rien à voir, Nassim.
Peut-être les Lakers, qui sont un peu dans le dur en ce moment, qui ne gagnent pas de titre depuis de nombreuses années.
Mais t'inquiète pas pour le King LeBron. Encore, non, il sera au rendez-vous pour la saison prochaine, peut-être.
Non, mais encore, mais l'analogie du coach Tolley sur Football Manager est criante. On a un dirigeant qui arrive, qui pose des millions, voire le milliard sur la table.
Et comment il doit faire?
Et justement, il achète des joueurs. Il les empile sur le terrain, sur le 11, en essayant d'avoir le meilleur 11 possible, n'importe lequel d'entre nous pourrait le faire dans une partie de Football Manager. Sauf que, contrairement dans une partie de Football Manager, là, il faut prendre des choses. Il y a des choses à prendre en plus. Par exemple, l'affect via les joueurs, ne pas être trop proche des joueurs quand on est coach ou quand on est dirigeant, surtout quand on est dirigeant, pour le coup. Le lien entre le centre de formation et l'équipe première, qui est totalement brisé. Et surtout la peur, parce que là, surtout le centre de formation il symbolise la peur du PSG. Pourquoi? Parce que depuis le départ de Coman pour le Bayern Munich, la Juve plutôt, là on a un Nasser El Khelaifi et un Antero Henrique qui ont peur de lâcher la prochaine pépite du centre de formation. Du coup, tous les joueurs du centre de formation qui arrivent à peine passer la première saison au centre de formation, ils ont directement un contrat professionnel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On donne pas un contrat professionnel à un joueur qui est dans l'équipe réserve du PSG. On attend déjà qu'il fasse ses preuves en CFA, puis qu'il monte en équipe première, qu'il fasse quelques matchs. Si la saison est prometteuse et intéressante, on lui donne un contrat pro, et pas l'inverse.
Mais pourquoi ça arrive?
Et ça témoigne justement de la peur. Du manque de professionnalisme des dirigeants du PSG.
Alors peut-être on va voir la réponse avec Nicolas, pourquoi ça arrive. Mais en tout cas, on aura ta réponse à toi, Claude.
Première question, oui, je suis pas en désaccord avec toi,
Nico.
Là-dessus. Deuxième point, il y a un énorme bassin de joueurs ici en Ile-de-France. Je pense
le meilleur.
Quand même, il y a un énorme bassin. Qui pourrait produire plusieurs équipes de jeunes. On voit, je le répète, que Thiago Motta va partir. On a des résultats catastrophiques en réserve. Je crois qu'ils sont pratiquement au bord de la 5e division. Ça pose un vrai problème. Autre chose, un troisième point, c'est que le PSG, une nouvelle fois, sur la gestion, est géré comme une marque et pas comme un club de foot. Et là, vous avez raison, tous les deux, de dire qu'on ne met pas 500 millions d'euros sur la table en disant, tiens, on va faire un empilement de gens. Et c'est compliqué. Et puis, dernier point, je finis Bilal, c'est qu'on a des joueurs qui pètent les boulons. On a des joueurs qui pètent les boulons. Mbappé qui agresse le défenseur de Rennes.
Wow,
je rappelle
pas beau,
que TJ Savanier à Nîmes, pour un coup d'épaule sur Mbappé, a pris 5 matchs. Et là, lui, va agresser, défoncer Da Silva. J'ai envie de savoir ce qui va être pris comme décision.
Il peut le casser la jambe.
Et Neymar qui met un pêchon, un supporter.
Un supporter.
Qu'est-ce que c'est ce cirque?
C'est le cirque, encore. Peut-être pour certains, le coach. Le PSG, rien ne va plus en cette fin de saison. La crise en interne. Nassim nous l'a relaté.
Nicolas a dit un truc intéressant tout à l'heure. C'est vrai que bizarrement les matchs deviennent intéressants parce que ce PSG là n'a jamais été aussi faible depuis la prise des Qataris. Mais en même temps ils sont à voir par leur propre jeu. C'est-à-dire qu'à l'échelle européenne, ils franchissent pas le cap, tu te fais sauter en huitième de finale.
Ah oui, c'est trop tôt.
Et puis il y a un écart tellement important avec les autres équipes du championnat. Bah tu te retrouves entre le mois de février et le mois de juin, te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait?
T'as tué le football français.
Avec le hashtag TimeSport, Jeff qui nous dit, justement, coach, que c'est devenu Disneyland de Paris Saint-Germain.
Justement, pour revenir là-dessus, je dirais pas que ce PSG est faible. Il n'est pas faible, il est très fort.
En tout cas,
techniquement et tactiquement, il l'est. Le problème, c'est que mentalement, cette équipe est au fond du trou. Depuis leur élimination contre Manchester United, c'est justement là où leur niveau baisse en Ligue 1, c'est que justement en fait ils ont totalement lâché.
Mais Nassim,
ils se savent déjà champions.
Nassim, je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de te dire, le mental, c'est le plus important.
Oui, justement.
C'est la base. Ils sont plus faibles quand même.
Oui, ils sont plus faibles. Mais le problème, c'est que.
C'est 80%.
Intrinsèquement, chaque joueur est meilleur que tous les autres joueurs de Ligue 1.
Tout.
Le problème, c'est que cette équipe souffre d'un très grave déficit mental. Beaucoup plus que la plupart des équipes de Ligue 1 et même que certaines équipes de Ligue 2. il y a un souci au niveau mental et il faut absolument que le PSG trouve un remède là-dessus, virer les joueurs qui posent justement ce problème-là, virer le staff qui pourrait poser ces problèmes-là, virer la direction qui pourrait poser ces problèmes-là, et après, peut-être que le PSG pourra viser plus haut en Ligue 1 et pourquoi pas même en Ligue 2.
Vous l'aurez compris, cher auditeur.
Je finis vite fait. Les champions, ils perdent quand même contre Manchester United.
Les moins de 20.
Les moins de 20 pour toi. 17. On a des joueurs qui n'avaient jamais joué
un match à ce niveau-là.
On a Bailly qui sort pratiquement au bout de 20 minutes. Enfin, là, à un moment donné, je crois qu'il est nécessaire de se poser les bonnes questions. Et je l'ai déjà dit depuis un certain nombre de mois, oui, le projet QSI au PSG est mort, est enterré. Voilà.
Ouais, n'est-il pas légitime, justement, de la part de cette puissance financière qui dope le business et la visibilité quand même du football français, il faut le rappeler, dont tous les clubs bénéficient, de demander non pas le respect de la communauté du football national, mais au moins de tempérer cet esprit, Nicolas, le coach de coalition permanente qui désigne comme le grand méchant loup, quoi, Nassim.
Le respect, le respect, ça se demande pas. Ouais. On va pas demander aux gens de nous respecter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le respect, ça se mérite, ça se gagne. La question à se poser pour les dirigeants du PSG, c'est est-ce qu'on a mérité le respect de nos supporters et des supporters de France? Si la réponse est non, c'est qu'il y a un problème. Et n'oublions pas, on va pas non plus poser un débat catastrophique là-dessus. Le PSG reste quand même le club le plus aimé de France.
Au bas des arènes de Poula avec Neymar au PSG sur les mugs blancs. Donc tu vois, en termes de merchandising, ils sont pas dégueulasses.
Ouais. Vous restez avec nous, le 01 53 48 3000 pour réagir avec vos consultants, avec Guillaume, Mamadou, Nassim, Nicolas et sans oublier le coach. On se retrouve de suite pour parler Coupe du Monde féminine 2019. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il est 18h23, toujours en compagnie de Claude Tollé, Nassim Bourras, Nicolas Vidal, Guillaume Ascariès, sans oublier Mamadou Lamine Mané. On s'est penché sur le cas du Paris Saint-Germain, maintenant place à la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France.
Time Sport.
Et oui, Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus, dévoile ce jeudi soir à la télévision chez nos confrères de TF1 20h sa liste des 23 joueuses retenues pour la Coupe du Monde en France du 7 juin au 7 juillet.
Time Sport, la victoire.
C'est une victoire pour le football féminin, mais la victoire, elle sera plutôt pour Léo Jardim, tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Hein, on va se la remettre, celle-là. Corinne Diacre, en poste depuis bientôt 2 ans, c'est si bien ménagé les silences et les secrets. Peu de mots, en effet, et peu d'échanges, c'est elle. Ou cela depuis une tempête médiatique qui s'était abattue sur elle. À l'été 2014, elle a été nommée coach de l'équipe professionnelle du Clermont Foot. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, intriguée par cette nomination, le monde entier a alors débarqué en Auvergne avec des questions récurrentes forcément en relation avec les compétences et la pertinence d'une femme à la tête d'une équipe. Cette capacité d'évacuer la pression par la discrétion se révélera-t-elle comme une arme ou une faiblesse face aux projecteurs du monde entier qui se braqueront une fois de plus sur son équipe dans presque un mois? Nicolas.
Ben moi, vous savez, j'aime bien les figures qui sortent un peu la bien-pensance. Et moi, Corinne Diacre, je l'aime bien parce que ce matin,
on l'aime bien, nous. On l'aime beaucoup.
De l'équipe, on nous lève le voile sur la façon de communication de Corinne Diacre et on lit. Je cite nos confrères de l'équipe, les raisons en sont multiples qui iraient trop de désinvolture chez certains, de manque de travail chez d'autres, des questions identiques au fil des mois. On parle bien entendu des journalistes. Donc ça, je suis extrêmement intéressé parce que on est un peu sur les syndromes des commentateurs chez les confrères qui commentent des matchs et toujours avec des bords arrondis, un joueur est ultra mauvais, on dit qu'il n'est pas en forme. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, surtout pour les questions qui reviennent au fil des mois. Et ça, je crois que c'est bien une une entraîneur, une sélectionneuse de foot qui soit un peu en retrait des médias et qui ne supporte pas effectivement cette espèce de question lyophilisée sur le football avec des commentaires qui sont totalement indigents. Donc merci pour ça, au moins on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire.
Elle est tout à fait sereine. Peut-on justement considérer qu'elle soit sous pression avec une obligation de remporter le trophée le 7 juillet du côté de Lyon, du groupe Emirates Stadium? Peut-être Mamadou, comment ça va? Alors Mamadou, le sujet.
Bonjour à tous, excusez mon retard. Je vais suivre l'autoroute qu'a ouvert Nicolas pour
Merci.
Moi, mais elle.
Elle n'est pas privatisée, celle-là.
Elle n'est pas privatisée. Pas encore. Mais ce que dit Nicolas, c'est vrai. Justement, avoir ce type de réaction, de communication et, vis-à-vis des médias, moi, je trouve ça parfait. Parfait. Elle a le bon tempo. Je pense qu'elle a été échaudée, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau laveur. Chat échaudé. Elle a le tempo qu'il faut pour pouvoir effectivement gérer cette pression, parce qu'elle va en avoir. Les lumières de toute cette com vont être braquées sur elle. Et effectivement, elle a un point. Mais je pense qu'avoir ce recul, ce pas en arrière et cette distance qu'elle met vis-à-vis des médias, je pense qu'elle elle a exactement le comportement qu'il faut avoir.
Mais peut-être qu'elle n'aime pas le syndrome Paganelli où quand il pose une question, la réponse est dedans. Quoi.
Ouais. Exactement. Ouais. Voilà.
Ah bah, c'est pas faux. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Le coach Tollet, ouais, concernant le football féminin, toi qui t'y connais mieux que nous tous, j'ai l'impression.
Ouais, je suis dédain, mais bon, ouais. Vous connaissez voilà. aussi. Non, mais ouais. Pour revenir à Kroenjak, elle s'est fait défoncer, pardonnez-moi du terme, quand elle est arrivée à Clermont. Et 4 années plus tard, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé. Je connais notamment Rémi Dugimon qui est actuellement à la Géosserre. Elle a su imprégner sa marque. Enfin, elle a montré qu'elle avait tout simplement les qualités d'une bonne technicienne, d'une bonne coach. Et puis j'ai lu aussi l'article sur l'équipe, très intéressant
passionnant.
Vraiment passionnant. Maintenant, pour être un petit peu dedans. Alors c'est pas la pression vis-à-vis d'elle, parce que voilà, mais par rapport à l'environnement, il serait bien que l'équipe de France la remporte cette Coupe du Monde, parce que contrairement à ce qu'on
espère, mais les nations
à gauche, je peux vous assurer qu'il y a encore il y a encore beaucoup de travail dans le foot féminin.
Allez, Nico,
faut la gagner.
Je pose une
avant
question
de terminer.
Au spécialiste, au coach d'équipe.
Ouais.
Elle dit notamment cet article, une nouvelle fois, vraiment on recommande de le lire parce qu'il est passionnant ce matin dans l'équipe. Elle dit: je ne prends pas les meilleures joueuses, mais celles qui sont plus aptes à faire en collectif.
Bien sûr.
Donc elle pourrait se passer de
bien
plusieurs
sûr.
Noms de joueuses.
Bien sûr.
Voilà.
Mais
est-ce
c'est
que
pas
toi, ça te paraît valable
bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, c'est pas étonnant. Il faut savoir que
il y a un exemple tout frais. Je vais te laisser venir, Claude. Un exemple tout frais de Deschamps qui effectivement
parfait.
Dans sa gestion de groupe de prendre un groupe et de constituer un groupe pour aller à l'objectif.
Ça me fait penser un peu à lui.
Pour effectivement prendre des individualités.
Tu as rarement un sélectionneur qui prend intrinsèquement les meilleurs, ça peut arriver, hein, mais c'est rarement le cas. Déjà, premièrement, pourquoi l'avis de groupe? Tu restes en général un mois et demi, c'est vachement important.
Ouais.
C'est vachement important.
Ouais,
c'est
ouais.
Bah, tu le lis ce matin, et dit si elle doit faire un choix entre deux joueuses aux valeurs égales.
Elle parle de l'état d'esprit.
Bah, bien sûr, c'est la base de tout l'état d'esprit. Clairement.
Après,
complémentarité de jeu, etc., c'est autre chose. Mais l'état d'esprit avant tout, clairement.
On suivra de près, en tout cas, la Coupe du Monde féminine en France. Nicolas, quelque chose à rajouter? On aura la réaction de Nassim.
Rapidement, vous savez, j'aime beaucoup les livres et la littérature, et même aussi l'actu documentaire foot. Il y a un très bon bouquin qui vient sortir. Robert Lafont, Mélissa Piazza, qui est ancienne joueur de football professionnel. Roche-sur-Yon, Olympique Lyonnais. Et qui vient
qu'on avait interviewé
pour les filles, notamment.
Je l'ai entendu hier soir.
Voilà, donc c'est un livre qui met en avant, qui met en exergue la précarité des joueuses de football par rapport au salaire des garçons.
Et
elle disait qu'elle touchait 1500 euros à l'Olympique Lyonnais. À lire, à découvrir.
Et encore, son premier contrat, je crois qu'elle était à 400 euros.
Et Mélissa
était à Guingamp aussi.
C'est ça.
Oui, en fin de carrière.
On doit l'inviter sur l'antenne de Beurre FM. Vraiment. Quand j'avais aperçu justement que son livre sortait.
Il y a un gros aspect sociologique dans la manière dont elle aborde de le sujet du sport en général.
Et bien sûr, justement, on va terminer avec toi, parce que là-bas, c'est quelque chose d'autre. Hein. L'Allemagne, toujours un pays assez en avance, notamment dans le sport. Quoi,
oui, notamment
dans
le football féminin, où surtout ils ont énormément sur le football féminin. De licenciés par rapport à tout le reste de l'Europe. Mais pour revenir à l'équipe de France et à la Coupe du Monde féminine, il va falloir passer un cap. On parlait du cap des quarts de finale et des huitièmes pour le PSG. Là, c'est le cap des quarts pour l'équipe féminine. La Fédération française va avoir beaucoup de mal s'il y a encore un échec, parce qu'il ne faut pas oublier que soit en Coupe du Monde, c'est quart de finale, soit en Coupe d'Europe, c'est quart de finale, et que soit aux Jeux Olympiques, c'est encore quart de finale. Il y a ce cap des quarts de finale que l'équipe de France n'arrive pas à passer. parce qu'il y a des adversaires plus fortes, que ce soit le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, justement. Et il va falloir se faire violence avec une nouvelle génération. Il y avait la génération Louisa Nesip qui n'a pas pu atteindre un titre
malheureusement,
à
ouais.
la fin. Là, il y aura une nouvelle génération, notamment menée par Khaira Amraoui, la milieu de terrain du Barcelone. Qui a fait une très belle saison, qui a qualifié son équipe en finale contre le Bayern Munich, qui a fait un très bon match.
Ouais.
Et justement, il y a moyen de repartir avec une nouvelle génération pour pourquoi pas, à la fin, essayer d'avoir ce titre en
gagner.
France.
Faut gagner.
En tout cas, pour terminer, il faut savoir que. Faut gagner quoi ?
Faut gagner.
Ligue des Champions ? Non, Coupe du Monde.
C'est le Coupe du Monde parce que c'est malheureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et pour vraiment que le football féminin progresse, c'est beaucoup plus profond encore que ces stats que vient de nous sortir Nassim. Il y a un gros travail à faire et pour franchir le cap, il faut la Coupe. La coupe, les gars.
Et justement, on verra la coupe de près ici dans cette émission. Toujours à vous donner les dernières infos concernant la planète sport. N'est-ce pas, Nicolas ? À savoir que les sœurs Egerberg, en conflit avec leur fédération, n'iront pas à la Coupe du Monde. Et aussi, il y a aussi Ada, la fameuse joueuse Ballon d'Or. Oui, Nassim, ça le fait sourire. On va passer à la victoire, justement, de notre coach du côté du sud de la France.
Time Sport. Le duel.
Ouais, c'est le duel. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce soir, notre réalisateur, mais pourtant, moi, j'étais encore sur la victoire. Parce qu'en fait, ça ne fait rien. Léo Jardim, c'est plutôt sa victoire à Léo Jardim. L'entraîneur de Monaco, dont l'équipe était menée 2-0 à Rennes, estime avoir pris un point important dans l'optique du maintien avec ce match nul, 2-2, en accrochant le point du match nul sur la pelouse des Rennais et en repoussant Caen à 4 points au classement de l'ASM. A-t-elle fait le plus dur, cette équipe, à 4 journées de la fin du championnat de Ligue 1? Que dire del Tigre, Radamel Falcao ressuscité avec son doublé. On l'écoute, Mamadou, concernant les Monégasques.
Bah écoute, les Monégasques, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire au bon moment, parce qu'à 4 journées de la fin, tu te loupes à Rennes, comme c'était parti sur l'intégralité du match. Ça aurait été très très compliqué. C'est une équipe qui est fragile psychologiquement. Elle a vécu beaucoup beaucoup de choses cette saison. Ça a été un petit peu les montagnes russes. Jardim est revenu, donc on avait assez parlé ici de son aller-retour sur cette saison, et il a réussi quand même à stabiliser l'équipe. On pensait qu'il allait pouvoir la propulser, mais déjà la stabiliser, c'est pas mal. Le but du jeu étant de ne pas descendre l'année prochaine. Ouais. Donc là, il fallait pas se louper.
Avec un gros apport au mercato quand même. On parle de Jason Martins, on parle quand même du retour de Rony Lopez, Golovin qui était déjà
là.
Jamerson, il alterne le bon comme le pas du tout bon. Mais quand même, je pensais que Monaco, avec cette équipe-là, moi c'est un peu mon pronostic à la Nkunku. C'est-à-dire que j'ai prévu que Monaco allait nous dépasser. Ah, par exemple, le Nîmes Olympique, je le rappelle pour nos auditeurs, qu'on allait se dépasser. Et puis finalement, non, ils continuent à être derrière la petite charrette, ils sont juste au pied, au gap de la charrette qui les amènera en Ligue 2, ce que je ne crois pas, bien entendu.
Je ne pense pas non plus.
Mais c'est quand même désespérant.
Alors le coach.
Ça a été chaud quand même, parce que là, bon, ils arrachent le.
Mais chaud dans quoi, coach ?
Attends, on n'entendait plus parler là, Monaco, ils n'arrivaient plus à avancer depuis un moment. Heureusement que c'était la charrette derrière. Hein. Donc ils ont pris quelques points à l'arrivée de Jardim à son retour, tel James Bond. Mais heureusement, franchement, heureusement, parce que c'était chaud. Hein.
Ben, il n'y avait plus rien. Ouais, mais Monaco, la réalité de Monaco, c'est qu'ils ont voulu à un moment donné concurrencer le Paris Saint-Germain, pas en termes de valeur marchande ou du moins d'enveloppe financière. Mais le président, il y a 2 ans, a réduit la voilure. Rappelez-vous,
sûr,
ils ont vendu Lemar, ils ont vendu Bernardo Silva, ils ont vendu un paquet de joueurs. Et parce que le Monaco, finalement, pendant très peu de temps, on s'est dit peut-être qu'on pourra concurrencer le PSG. Et rapidement, les Russes,
ils ont réduit la voilure.
Ils ont réduit considérablement la voilure. Et Monaco, de fait, est parti. Et c'est malheureux parce que ça aurait pu être le seul club qui aurait pu concurrencer le Paris Saint-Germain. Et est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment, qu'il y ait deux clubs qui surnagent? Je ne suis pas sûr. Regardez les autres pays européens. Il y a quand même 3-4 clubs par championnat qui peuvent se tirer un peu la bourre.
Mais je pense que Monaco a été pris par le
fameux
de la grenouille qui s'est. Enfin, tu vois, qui veut.
Oui.
Elle s'est vue plus belle. Monaco s'est vu plus beau qu'il n'était, parce que la voilure du PSG n'est pas celle de Monaco.
Bien sûr que non.
On a un actionnaire principal qui est
Ribolov.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il sur la balance, il ne pesait pas en termes de projet.
Non, il pouvait pas suivre.
Il a surtout divorcé et ça lui a pris la moitié de son salaire.
Ça a beaucoup joué aussi. On termine avec notre voyageur, le Globetrotter. C'est Guillaume Ascari qui est avec nous aussi ce soir et qui aimerait parler concernant Monaco. Hello, Jardim.
Monaco, ça a déjà été dit ici. Moi, je pense que Monaco, il y a un manque de projet sportif chez Monaco. Ça a été dit déjà dans cette émission. Le problème chez Monaco, c'est-à-dire que s'ils sont là actuellement, ils ont toutes les capacités sur la principauté pour faire pour être compétitif, pour que ça soit un grand club comme avant, comme on a connu les grandes épopées de Monaco.
De 2000 aussi.
Après, moi, sur ce match, j'aimerais revenir sur Falcao. Falcao, il a quand même une mauvaise saison, faut le dire, avec Monaco. Là, il a inscrit son 12e et 13e but. Donc, c'est quand même bon pour lui. Surtout qu'il a vécu un mondial un peu moyen aussi. Donc, faut noter aussi la performance de Falcao qui permet d'avoir un espoir pour le maintien.
Sachez tout de même
que
Guy Mascari est colombophile, hein, ça faut que je me le dise.
Ouais, mais justement. Ça va plus lui parler, le débat d'après, à Guillaume. Sud-américain, Diogo Bonito, ça va plus lui parler. Oui, Nassim.
Moi, justement, au contraire, je pense que les 12-13 buts de Monaco dans ce contexte-là sont intéressants. Et ça ne rend pas si mauvais que ça, pour le coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe de l'AS Monaco, c'est une équipe très instable depuis le début de saison, soit de par la blessure.
Ouais, tant mis à part le Bayern, tout le monde est instable.
Tu as raté de
Venir sur bêtise,
le Bayern
toi aussi.
Sur le papier. Ouais. Non, mais c'est une équipe très instable. Déjà, les blessures pendant toute la première moitié de saison ont tué ce club. Le départ de Jardim, l'arrivée
On rappelle que Benaglio s'est coincé le dos hier en descendant de l'avion. Déjà, ça part très mal qu'on va jouer à Rennes. Ils ont dû faire jouer le gardien moins de 17. Donc là, on est vraiment sur un vrai problème de fond.
Non, mais c'est super.
Qui, à mon avis, est imprévisible.
Mais c'est super instable comme contexte. Et marquer 13 buts dans ce contexte-là, je trouve que c'est ça donne un peu du baume au cœur pour le joueur qui justement réalise une saison, on va dire, bon, pas exceptionnelle, mais
on suivra de près.
Exceptionnel, on a voulu aller voir Falcao.
On suivra de près, messieurs, la saison de l'ASM et plutôt la fin de saison de cette Ligue 1 Conforama. On passe au vrai duel de la soirée.
Time Sport, le duel.
Le FC Barcelone qui fait sourire coach Tolé, qui assomme Liverpool 3-0 au terme d'une partie disputée et a quasiment un pied en finale. Avec ce résultat plus que favorable, les Blaugrana peuvent envisager, excusez-moi, très sereinement le retour à Anfield mardi prochain. Oui, sait-on jamais.
Attention, il y a la Roma, il n'y a pas très longtemps.
Oui, peut-on parler de grand flop pour les Reds qui repartent de Catalogne sans le moindre but inscrit tout de même, malgré une animation offensive performante ou permanente.
Alors, moi, je l'ai suivi sur l'équipe 21 hier. C'était très compliqué.
C'est le confrère de l'équipe.
Voilà. Donc, j'ai vu Johan Riou. Quand j'ai vu la tête de Johan Riou, quand Messi l'a rendu totalement fou, le mec. Il est devenu. Non, mais faut voir sa tête, hein, sur l'équipe 21. Bon, après, faut comprendre. Quand tu vois le coup franc que te met Messi, je veux dire.
25 mètres.
À partir de ce moment-là, il met tout le monde d'accord. Enfin, je veux dire. Et puis, le deuxième but derrière, enfin, il n'y a rien à dire. Barcelone est au-dessus.
Et Messi aussi, Guillaume. Nouveau Messi, Ballon d'Or, peut-être
Évidemment,
cette année
évidemment.
Certainement. Non, mais pour Guillaume et pour toi.
Il y a deux hommes dans ce 11 du Barça. Il y a bien entendu Lionel Messi qui a marqué son 600e but. Voilà, on ne va pas revenir sur son talent, on en a déjà suffisamment parlé. Mais il y a Marc-André Ter Stegen qui a réussi.
Le gardien,
qui a fait
portier.
Un très bon match dans les buts du Barça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Liverpool n'a pas été ultra dominé dans ce match. Ils ont eu leurs occasions, ils auraient pu marquer deux buts. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait justement ce gardien de but qui réalise une saison fantastique, extraordinaire. Après, j'enterrerai pas non plus Liverpool, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un retour à Anfield. Le Barça s'est déjà pris une remontada contre l'AS Roma. Pourquoi pas contre Liverpool ? Donc, c'est possible.
Ouais, mais c'était infime, cette remontada.
Mais disons qu'ils ont un peu trop fort, là. Non, mais attends, je dis juste que le match n'est pas terminé. Il y a encore un match retour.
L'Olympique de Marseille avait gagné avec Balbuena du côté d'Anfield. Et là, on est avec Barcelone et tu me sors que. Oh là là !
Ils ont les cartes en main.
Je ne suis pas Bundesliga au fil, mais donc, moi, je veux au-delà de Marc-André Ter Stegen, je verrai plus un Sergi Busquets qui, pour moi,
travaille
toujours dans l'ombre. C'est le porteur de haut. C'est celui qu'on ne voit pas,
qui
fluidifie le jeu. C'est-à-dire que si Messi est performant aujourd'hui, certes, il y a un beau milieu de terrain avec Vidal aussi, mais Busquets.
Il y a Suarez aussi qui fait des appels, il écarte les défenses. Donc il y a tout un environnement autour de Messi qui permet aussi d'aller travailler sur vraiment l'impact.
Le Barça a changé de philosophie de jeu. La philosophie de jeu qu'on a vu avec Pep. On sait qu'on n'est plus dans ce Barça-là. C'est un Barça qui est beaucoup plus pragmatique, qui est beaucoup plus cynique dans le jeu.
Un Barça Deschamps.
Voilà, un Barça qui toujours qui garde sa patte technique, mais qui reste toujours, c'est chirurgical. Et quand on a un Messi qui est revenu par rapport aux deux dernières saisons à son meilleur niveau. Enfin, il ne faut pas chercher qui est le meilleur joueur au monde aujourd'hui.
Il y en a qui se le demandent encore.
Ils peuvent se chercher.
Il y en a autour de cette table qui se le demandent. Il y a des consultants qui se demandent. Mais oui.
Quand j'entends Lionel Messi, c'est le talent. Ok, moi je vais poser la question. C'est quoi le talent ? C'est quoi le talent ?
C'est Riyad Mahrez.
C'est quoi le talent ? Ça ne subit pas le talent.
Sors de ce corps, Yacine Bouali.
C'est Yacine qui l'avait dit. Merci. Une courte pause, la dernière, et on revient après.
Time Sport revient dans un instant.
Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
La dernière partie de cette émission de Time Sport, 18h-19h, avec le hashtag Time Sport. On vous fait remporter ou le maillot de Tottenham, de votre choix, ou sinon celui de l'Ajax d'Amsterdam. On parlait du Barcelone, on parlait de Léo Messi, on va en parler aussi avec tous les consultants, je le rappelle, Guillaume Ascari autour de la table, Nicolas Vidal de Pouch Media, sans oublier le coach Solé, Nassim Bourras, notre Bundesliga boy, et Mamadou Lamine Mané, notre rédacteur en chef. Oui, c'est du plateau de haut vol ce soir. On a parlé du jeu barcelonais. Considérez-vous que Jürgen Klopp, Nassim, et que son équipe ne pouvait faire mieux durant ce match?
Faire mieux, c'est compliqué.
C'est compliqué. J'ai pas envie que tu pleures à l'antenne, là.
Non, parce qu'ils font un bon match. Ils font un bon match en soi. Ils sont offensifs. Ils ont des occasions.
Et ils perdent 3-0.
Encore une fois, oui, ils perdent 3-0. Pourquoi? Parce que justement, ils sont face à un mur devant. Juste un peu devant, encore en plus, il y a Lionel Messi. C'est juste ces deux joueurs qui ont tué Liverpool. Derrière, il y a bien sûr un collectif derrière qui a pu alimenter ces deux joueurs. Mais quand vous avez un mur infranchissable et un attaquant capable de tout, et notamment de marquer un but à 25 mètres sur coup franc, ça devient tout de suite plus compliqué.
Liverpool faible.
Pardon?
Liverpool faible.
Non, pas faible. Non, on va pas dire qu'ils sont faibles. Ouais. C'est juste le Barça qui était trop fort. Il faut apporter la nuance. Le Liverpool est tombé contre une équipe qui était beaucoup trop forte pour eux. Il faut pas commencer à dire que Liverpool était faible. Non.
Ouais, pour toi.
Bon, je vais faire l'avocat des autres clubs européens.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait le Barcelone quand Messi arrête de jouer?
Alors.
Parce que Messi, l'équipe encore ce matin, donc on parle de l'équipe.
Ouais.
Incroyable, magique.
Magique.
Oui. Qu'est-ce qu'on fait si Lionel Messi se blesse gravement? Si pour une raison ou pour une autre, il arrêtait le football, il faisait plus de pubs que de foot.
Comment ça se passe?
Pour aller un peu plus dans ton sens, Nicolas, est-ce que Barcelone est en train de se poser la question aujourd'hui? Que va-t-il se passer quand Lionel Messi va arrêter? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce genre de, performance, ouais, où on voit qu'effectivement, c'est ce joueur qui, à un moment donné, peut tout déclencher. Et à chaque fois, c'est le genre de joueur, on parle de joueur dans le money time. Lionel Messi, c'est quasiment chaque année, quand il faut effectivement faire passer le cap supérieur, c'est Messi qui donne le tempo.
Bien sûr, c'est la question.
Que va-t-il se passer aujourd'hui quand Lionel Messi sera plus là, quand il va
se passer? Ils ont la Masia derrière.
On le voit sur d'autres clubs. Je veux dire, regarde, demain le PSG s'en démarre, on a vu ce que ça a donné.
On s'écoute, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Et on arrête de nous charrier, Guillaume. Ouais, Nassim, on revient à toi.
On parle de l'après-Messi, mais le Barça a déjà commencé l'après-Messi. Déjà, le changement de vue tactique, le passage du jeu de possession à la Guardiola vers un jeu plus pragmatique à la Valverde, déjà, c'est une annonce de la prochaine évolution du FC Barcelone. Et aussi, les transferts qui ont été lourdement menés, notamment avec l'arrivée de Coutinho et Dembélé, c'est aussi une preuve de l'avancement du nouveau Barça.
Dembélé, il est crié quand même,
dans tous les cas, ça montre bien que le Barça fait des investissements pour préparer
Le coach Toler, on t'écoute concernant le Barcelone et Liverpool hier, 3-0.
Ah oui,
c'est ça le vrai problème, c'est ce
diable. Ouais, pour toi?
Attends, tu veux pas la remplacer, ce gars-là? Non, mais il est unique déjà dans son jeu, dans tout ce qu'il fait. Après, va falloir. Ils sont en train de travailler dessus depuis 2-3 ans pour essayer de préparer une animation différente. Mais il est irremplaçable, ce gars. Va falloir trouver autre chose.
En fait, peut-il se transformer en chaudron, justement, pour le match au retour? Peut-être un enfer. Oui, en field, le stade des Reds de Liverpool.
Les stades anglais ont du mal depuis quelques années avec l'ambiance. On l'a vu notamment à Manchester United contre le PSG. C'est plus trop ça, l'ambiance dans les stades anglais. Il y avait une dizaine d'années.
Il y a eu le prix des places qui a énormément
augmenté.
Voilà, pour endiguer le problème des hooligans, ils ont fait de la discrimination sociale à l'entrée du stade. Il y a la discrimination à l'embauche, là c'est la discrimination à l'entrée du stade, où on a énormément élevé le prix des billets pour finalement interdire, mettre pour à la porte des stades et rester à la buvette les hooligans.
On a finalement remplacé un problème par un autre. Après, moi j'ai toujours pris la défense. On s'est pas échappé avec Claude, mais on en a parlé.
Ouais.
Claude est très. Alors c'est pas que je ne le suis pas, mais Claude, il a l'âme du supporter, il défend le supporter, il défend l'animation du supporter dans le stade. Mais
c'est un peu le supporter syndicaliste, quoi.
On termine, Mamad.
Attention, c'est un breton. Oui. Franchement, effectivement, sociologiquement, on a changé la sociologie du stade. Quitte à choisir, À un moment donné, il faut choisir dans les pires des mots, il faut choisir un. Je préfère avoir un stade peut-être plus aseptisé, ouais, mais où je ne vais pas au stade, moi, pour avoir la crainte d'avoir un mort ou quelque
on
chose.
On te parle de vrai supporter,
je comprends
que
mais à un moment donné, alors, on n'a plus le choix.
La question la plus générale, est-ce que c'est pas un problème aussi de maintien de l'ordre
Peut-être, Nicolas. Voilà.
Est-ce que c'est
pour la sécurité à travers les stades?
C'est une question que je pose.
En 2050, on prendra un billet en disant bon, bah, je vais aller à un match de football.
Il a raison de la poser. Il a raison de la poser quand même. Non, tout de même.
En tout cas, pour finir, sur ta question, ouais, je pense pas qu'il y aura de remontada. Je pense que c'est fini. Mais... Barcelone va passer et tranquillement.
Les gros pas, c'est le dernier rendez-vous de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Il nous reste pas plus de 4 minutes dans cette émission. On va aborder les deux pronostics avec les consultants. Allez, un mot peut-être concernant ce dernier carré de Ligue Europa, demi-finale aller. Francfort, Chelsea et Arsenal Valence à la lutte pour décrocher une place, pourquoi pas en finale. Nicolas, concernant le premier match avec les Allemands qui reçoivent les Blues de Chelsea.
Bah, les matchs sont ouverts, c'est bien. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va passer une bonne soirée sur le canapé devant une chaîne concurrente. Par contre, moi, la petite observation, c'est Arsenal.
Arsenal.
Qui, l'entraîneur d'Arsenal en sport.
Ouais.
Unai, c'est ça.
Qui s'est fait chuter du Paris Saint-Germain.
Et qui connaît très très bien cette Coupe européenne.
Et qui va jouer tranquillement une demi-finale de Ligue Europa, je le précise. Mais c'est quand même un joli pied de nez au naufrage économique sportif. C'est quatre fois que je dis ce soir du Paris Saint-Germain.
Il a gagné plus là, de coupes que l'ensemble du football français.
Ouais.
Là, c'est un match qui va être très intéressant, notamment avec un Francfort qui a bien envie de montrer au football allemand qu'il faut miser sur lui pour choper une finale européenne. Mais attention en face, parce qu'il y a Olivier Giroud qui est quand même le meilleur buteur de cette Europa League. Donc ça va être très très compliqué. C'est un joueur qui, même s'il est décrié, montre quand même qu'il a de très solides performances quand on fait appel à lui. Après, j'ai des doutes, de sérieux doutes sur la défense des Blues, qui a montré toutes ses largesses et ses faiblesses lors de cette saison. Ils ont du mal à choper la quatrième place pour la Première Ligue et la Ligue des Champions notamment. Donc ça va être un match très ouvert, beaucoup plus ouvert qu'on peut le penser. Même si Chelsea a remporté une Ligue Europa et une Champions League il y a quelques années, ça n'en fait pas moins un match très difficile pour eux aujourd'hui et pour l'autre match qui oppose Arsenal et Valence. Ça va être un match aussi très ouvert. Les Espagnols, on sait très bien qu'ils sont très, très solides.
Arsenal au-dessus ou pas au-dessus, Nassim?
Bah on l'a vu contre Rennes, ils sont capables du pire comme du meilleur. Hein. Le match aller contre Rennes nous montre
Arsenal bien. Au-dessus donc.
Ouais, voilà, le match aller contre Rennes, ils nous montrent pas. C'est très fragile.
Mamadou, concernant ces deux matchs.
Malgré l'excellente saison que fait quand même Unai Emery, tant décrié ici, il y a une certaine fragilité chez Arsenal qui fait que avant on n'a pas trop de certitudes. Ils peuvent être capables du meilleur comme pas du pire, mais de performance un petit peu en dents de scie.
Attention à Valence qui revient très.
Ouais, le coach.
Ils ont fait un début de saison difficile, mais ils reviennent bien. Un gros investissement, mais c'est
bien.
Solide. Hein.
Mais il s'est arrêté sur Unai Emery, on parle moins, mais lui il connaît très bien cette coupe.
C'est pas le Lopez 2001, mais ça revient. Ça
Non, mais surtout que l'équipe d'Arsenal, elle est très fragmentée. Ouais. En attaque, c'est très solide avec Aubameyang, avec Ozil, avec Lacazette.
Mais c'est régulier.
Mais derrière, c'est terrible, notamment avec la charnière. Koscielny, Sokratis et Mustafi, ça donne vraiment pas beaucoup
pas de gage de sécurité.
Ouais, ça donne vraiment pas gage de sécurité sur ce match-là.
C'est un peu pour eux. Hein.
C'est un peu pour eux, voilà, défensivement.
C'est pas
défensivement, il y a des garanties.
Je pense que
Valence a plus de chances face à Arsenal quand on voit les matchs, les précédents matchs d'Arsenal avant. Je veux dire, surtout contre Rennes. Le match, tu prenais cet exemple-là, Nassim. Ouais. Et le match aller, on voit ce que ça a donné. Match retour, pareil. Je veux dire, ils n'ont pas non plus été
flamboyants, transcendants.
Donc, à partir de là, je pense que tout est ouvert, mais je mets quand même un petit avantage sur Valence. Par contre, sur l'autre match, je vois bien Olivier Giroud. C'est vraiment, on veut dire,
l'attaquant français.
Non, mais c'est l'attaquant français qui a pas été utilisé du tout en première ligue. Ouais. Et là, en Ligue Europa, c'est sa compétition. Il peut y avoir un petit truc.
Je suis d'accord.
C'est bien que
Giroud, on termine avec les pronostics et Nicolas Vidal.
C'est bien que Giroud ait une licence que pour la Ligue Europa. C'est toujours bien d'avoir au moins une licence pour jouer au foot. C'est cool.
Ça,
voilà.
Pour finir.
Le pronostic, Nico. Alors, le pronostic pour Francfort Chelsea.
Alors, c'est très simple. Le pronostic, il est le même pour les deux, c'est le suspense.
Ah, voilà.
C'est
beau, ça.
On le verra sur les réseaux sociaux.
Guillaume Ascari. Au moins en Ligue Europa, on a eu suspense. C'est pas comme en Ligue.
Le Francfort, Chelsea pour Guillaume.
1-0 pour Chelsea.
Et pour le Arsenal Valence.
Alors là, c'est 0-0.
Et pour Coach Tollet, le Francfort Chelsea pour toi.
Un partout.
Un partout. Et pour l'Arsenal Valence.
Un partout.
Un partout, Nassim.
3-1 Francfort et.
Et pour l'Arsenal Valence, c'est Mamadou Lamine Mané.
2-0 Francfort.
Et Arsenal Valence.
Un partout.
Un grand merci à Mourad Abbassi qui est venu spécialement depuis Marseille en studio de nous avoir accompagnés. Merci à la réalisation, à la personne de Hugo et tous les consultants sans oublier Ménil et Guillaume Ascaré.
Mais attends, on n'a pas parlé de Strasbourg OM.
Et on n'a pas le choix, c'est comme ça, la suite des programmes merci sur l'antenne de Beurre FM.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.